toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est à prendre ou à laisser. Boris Johnson a posé une dernière offre sur la table, un autre plan de sortie, un autre scénario pour contourner l'équation insoluble de la frontière irlandaise. Le Premier ministre britannique, humilié il y a quelques jours par la Cour suprême, sans majorité au Parlement, joue donc une nouvelle fois son va-tout. Depuis hier, la Commission européenne met les formes, reconnaît quand même des avancées positives, se dit prête à la discussion. Mais à moins d'un mois du Brexit, après 2 ans de négociations, personne ne croit vraiment à la solution miracle. Alors que propose réellement cette fois-ci Boris Johnson? Que peut-il espérer de ce nouveau plan? Est-il en mesure d'imposer quoi que ce soit à son Parlement, à l'Europe? Brexit, c'est quoi ce plan, Boris? C'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Patrick Martin-Jeunier. Vous êtes spécialiste des questions européennes. Vous enseignez le droit public et constitutionnel à Sciences Po. Rappelons votre ouvrage « L'Europe a-t-elle un avenir ?» aux éditions Studirama. John Henley, vous êtes correspondant à Paris pour le quotidien britannique Le Guardian, chargé des affaires européennes. Marie-Claire Considère-Charron, vous êtes professeur honoraire de l'Université de Franche-Comté, spécialiste de civilisation britannique et irlandaise. Citons votre livre « Irlande, une singulière intégration européenne » aux éditions Economica. Enfin, Anne-Elisabeth Moutet, vous êtes journaliste, éditorialiste au journal britannique The Daily Telegraph. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Bon, j'ai besoin de vous, Patrick Martin-Jeunier, pour nous expliquer, et m'expliquer à moi comme si j'étais une enfant de 5 ans, quel est le détail du plan proposé par Boris Johnson. On était restés, les uns et les autres, sur un plan négocié entre Theresa May et l'Union européenne avec une histoire de backstop pour contourner le problème de frontières en Irlande. Et là, il arrive avec une autre solution.
Oui, alors disons que ça ne simplifie pas les choses parce qu'on part de 0 frontière à 2 frontières en réalité. C'est-à-dire que le fameux filet de sécurité qui devait couvrir à la fois le territoire de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord serait restreint en quelque sorte à l'Irlande du Nord. C'est-à-dire que le premier objectif, c'est qu'il n'y ait pas de frontière entre l'Irlande du Nord et la République. C'est toujours la même chose, sauf que ce n'est pas très clair. Et que si vous ne mettez plus de frontière entre l'Irlande du Nord, la province et la République d'Irlande, il faut bien quand même protéger l'Irlande du Nord, il faut bien protéger l'Union européenne également de l'entrée des marchandises par la Grande-Bretagne. Et par conséquent, ce qui est en train de ressortir, c'est ce qui avait été refusé à Theresa May, à savoir une frontière dans la mer d'Irlande du Nord entre l'Angleterre et l'Irlande du Nord pour contrôler l'entrée des marchandises en Irlande du Nord. Mais en même temps, une autre frontière qu'on voudrait virtuelle mais qui en réalité pourrait être physique également, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de contrôle physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Boris Johnson a dit dans le plan qu'il a envoyé hier à Jean-Claude Juncker qu'on reculerait en quelque sorte la frontière entre 12 et 15 kilomètres du côté de chaque Irlande pour qu'il n'y ait pas de checkpoints, hein, c'est-à-dire de points de vérification entre les deux Irlandes. Sauf que cela, effectivement, va d'une certaine façon rétablir quand même des points de contrôle ailleurs qu'à la frontière d'Irlande. Ça ne fait que déplacer le problème finalement.
C'est astucieux ou pas, John Henley? Parce qu'on pensait, nous, en fait, que Boris Johnson ne voulait pas tellement continuer à discuter avec la Commission européenne. Et là, on se dit, bah, il a planché et il arrive avec une autre proposition. Est-ce que c'est astucieux dans ce qui est proposé ou est-ce que vous y voyez...
C'est astucieux dans le sens où ça risque d'avoir un peu plus de soutien au sein du Parlement britannique. Déjà, les extrémistes du Brexit, le fameux groupe ERG, donc vraiment le Jacob Rees-Mogg, etc.
Alors, on ne les connaît pas, nous.
C'est les Brexiteurs les plus purs et les plus durs. On dit, bon, on pourrait accepter cela. Également, les unionistes de l'Irlande du Nord ont dit oui. On pourrait accepter cela, mais le problème, c'est que tout ce qui est le problème pour Boris Johnson, c'est que tout ce qui est acceptable pour le Parlement britannique ne sera pas acceptable pour les 27 et l'Irlande, et vice versa, tout ce qui est acceptable pour les 27 et l'Irlande ne sera pas acceptable.
Là.
On est toujours là, il est toujours coincé.
Oui, bien sûr.
Sur la question irlandaise, est-ce que là, il y a une, vous qui êtes spécialiste de la question, on était bloqué sur le backstop depuis 2 ans, on nous disait il n'y a que ça comme solution. Il arrive avec une autre.
Alors, le plan de Theresa May avait des vertus, c'est-à-dire qu'il répondait aux besoins qu'avait exprimé le Royaume-Uni de pouvoir commercer librement, et en même temps, il garantissait qu'une frontière physique ne réapparaisse pas entre les deux Irlandes. Je crois qu'il faut bien, il ne faut pas mésestimer l'importance de cette frontière. Beaucoup d'Anglais ne comprennent pas. Mais le problème, c'est que cette frontière qui était encore il y a guère plus de 20 ans, qui était présente, c'était à créer la zone la plus militarisée à l'ouest du rideau de fer. Et les populations frontières ont énormément souffert de la présence de cette frontière. Et le rappel d'un hypothétique retour de cette frontière crée énormément d'angoisse. Je crois que Jean Monnet a dit « Les frontières sont les cicatrices de l'histoire sur le visage de l'Europe ». Et je trouve que cette métaphore s'applique très bien à l'Irlande. On ne comprend pas l'impact psychologique qu'a eu cette frontière. Et toute idée de pouvoir rétablir, ne serait-ce que virtuellement ou à quelques kilomètres, cette frontière remet en cause le processus de paix, l'avancement des deux économies par l'instauration d'une coopération extrêmement fructueuse dans de multiples domaines, qui fait que c'est vraiment vécu comme un non-sens et une régression. Et j'ai encore entendu des habitants des zones frontières qui se demandent ce qui va leur arriver, parce qu'il faut savoir que pendant près de 30 ans, ils ont vécu avec le bruit constant des hélicoptères, les postes frontières, les contrôles, les routes barré, parce qu'il faut savoir que cette frontière, elle a 500 km de long et elle a plus de 250 passages.
Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est est-ce que pour les Irlandais, puisque vous le racontez si bien, la fracture et la cicatrice,
la cicatrice s'est refermée, mais elle peut se rouvrir.
Que ça représente encore pour eux aujourd'hui. Est-ce qu'avec le plan de Boris, puisqu'on a décidé de l'appeler comme ça ce soir, c'est quoi ce plan Boris? Est-ce qu'avec ce plan-là, la situation irlandaise est plus acceptable, justement, à ce titre-là? Ou est-ce que le plan précédent était plus confortable pour l'Irlande?
Elle n'est pas acceptable du tout. D'accord. Parce qu'elle apporte ce risque d'avoir un retour de la frontière, bien que Boris Johnson dise qu'on ne la verra pas, cette frontière, il y en aura, mais on ne la verra pas, les contrôles se feront, etc. Elle sera tout de même là, et il y aura des contrôles qui devront être faits. C'est quelque chose que les Irlandais, au nord comme au sud, ne peuvent pas accepter.
Ça veut dire qu'ils ont déjà mal réagi à la proposition?
Tout à fait. Léo Varadkar a été très prudent. Il a deux choses qu'il ne supporte pas, qu'il n'accepte pas.
Premier ministre.
Alors, excusez-moi, le premier ministre irlandais. Léo Varadkar a dit il y a deux choses qu'il n'accepte pas. C'est le fait de ce retour de la frontière, donc des contrôles douaniers, parce que dans le plan de Boris Johnson, l'Irlande du Nord sort de l'union douanière en même temps que tout le Royaume-Uni, alors que dans le plan de Theresa May, elle n'en sortait pas en attendant qu'on trouve une autre solution. Donc c'est toute la différence.
Anne-Elisabeth Moutet, il sort d'où ce plan?
Alors,
il a travaillé depuis quand? Présenté comme une surprise, ou est-ce qu'il a préparé son coup?
Certainement pas depuis avant qu'il est Premier ministre, mais il a autour de lui des gens qui y travaillent depuis un peu plus longtemps. La question, c'est ce que disait Madame, c'est-à-dire les gens qui veulent le Brexit en Grande-Bretagne ne veulent pas rester dans l'union douanière, parce que l'union douanière implique un certain nombre de décisions qui sont prises dans l'Union européenne et auxquelles la Grande-Bretagne, qui ne fait plus partie politiquement de l'Union européenne, est obligée de se soumettre sans avoir la contrepartie de participer à l'élaboration de ces décisions. Donc c'est pour ça qu'elle n'en veut pas. Alors, ce que veut faire Boris Johnson, c'est pas totalement dénué de sens, et c'est intéressant que les parlementaires du parti DUP unioniste avec la Grande-Bretagne ont dit que c'était quelque chose de supportable, parce que ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut faire des spot checks. C'est pas du tout la même chose qu'une frontière. C'est-à-dire que c'est des endroits où il y a, comme on a en France, les gens des poids et mesures sur les autoroutes qui de temps en temps vérifient que les essieux sont bien calibrés et des choses comme ça. C'est obligatoire. c'est la loi, ça fait partie des choses qui vont avoir avec la réglementation, mais il n'y a pas une ligne qui est tracée. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est une frontière dangereuse, que là, enfin, on a oublié effectivement le niveau d'agressivité et puis le niveau de délitement de la société qui a entraîné ce qu'on appelait, avec un grand euphémisme à l'anglaise, les troubles pendant 30 ans entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. Et j'ajoute les conditions dans lesquelles, de chaque côté, il y avait non seulement une militarisation, mais une mafialisation de trafic, de gens où les armes étaient arrivées par des trucs détournés, qui s'en servaient pour faire du gangstérisme. Enfin, c'est vraiment une situation intolérable. Mais l'idée consiste à dire, voilà, vous avez un certain nombre de trucs, il y a un hangar dans tel endroit, vous allez le chercher, il y a des vérifications avec des puces RFID, comme vous en avez maintenant, pour faire...
Oui, un appel à la technologie, avec l'idée qu'on pourra... Est-ce que l'Europe est assez sceptique, mais on va le voir dans un instant.
Tout le monde est assez sceptique là-dessus. On se rend bien compte qu'en réalité, qu'est-ce que c'est ? C'est une offre politique. Étant une offre politique, c'est, écoutez, si on est de bonne volonté, on peut faire marcher ça. Tout comme on fait marcher un certain nombre de frontières où les contrôles ne sont pas entre la frontière, par exemple, polonaise et la frontière bélarusse. Eh ben, c'est pas la même chose que entre la frontière du Nord, de la Corée du Nord ou de la Corée du Sud. Ouais, bien sûr, rien. Donc il y a. Mais c'est surtout l'idée de casser, si on veut, de terminer la situation d'antagonisme total au sein du Parlement britannique et de faire une vraie proposition.
C'est
une porte ouverte. Et ce n'est pas seulement une porte ouverte, une porte ouverte avec une arrière-pensée. C'est-à-dire que où ça marche, je dirais 30% de chance, et ben il a réussi son coup. Où ça ne marche pas, mais à ce moment-là, c'est l'Europe qui a refusé. Et lui, il a dit non, moi je veux un deal, je ne veux pas sortir sans deal. C'est vous qui me forcez à sortir sans deal.
Il paraît que selon BuzzFeed, qui est un site d'information, il y aurait déjà des éléments de langage qui sont prêts du côté des proches de Boris Johnson pour expliquer que c'est de la faute de l'Europe et que l'Europe est folle. Alors justement, on va voir ce qu'a dit l'Europe. Boris Johnson, en tout cas, on l'a compris, a présenté ce qu'il a appelé son offre finale. Le Premier ministre estime que ce plan est à prendre ou à laisser, mais l'Europe ne l'entend pas forcément ainsi. Depuis hier, les déclarations embarrassées se multiplient. La Commission évoque des points encore problématiques, ce sont les mots qui sont utilisés, et demande à Londres de revoir sa copie. Bref, chacun, une nouvelle fois, se renvoie la balle. Juliette Perrault et Nicolas Baudry-Dasson.
C'est ce qu'il appelle son offre finale. Et c'est devant un public acquis à sa cause que Boris Johnson a voulu préciser son alternative au backstop, principal point de blocage d'un accord avec les Européens.
Nous protégerons notre précieuse union entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Et oui, il y a un compromis de la part du Royaume-Uni. Et j'espère vraiment que nos amis comprennent cela et fassent un compromis de leur côté.
Un compromis qui prévoit que l'Irlande du Nord reste alignée sur la réglementation européenne, tout en formant une union douanière avec la Grande-Bretagne. Concrètement, il y aurait donc deux frontières, la première entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, avec des contrôles réglementaires en mer d'Irlande. La seconde, entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, une frontière douanière virtuelle dont le fonctionnement reste encore flou. Elle pourrait prendre la forme de déclarations en ligne avec des contrôles aléatoires dans les entreprises. Le plan Boris, un scénario bien compliqué, mais c'est à prendre ou à laisser.
N'ayons aucun doute sur ce qu'est l'alternative. L'alternative, c'est une sortie sans accord. Et ce n'est pas l'issue que nous souhaitons et ce n'est pas du tout une issue que nous cherchons. Mais je vous le dis, mes amis, c'est une issue pour laquelle nous sommes prêts.
Pourtant, la proposition ne convainc guère les Européens qui utilisent l'anglais pour mieux répondre à Londres.
Il y a des progrès, mais pour être franc, il reste encore beaucoup de travail à faire pour atteindre les trois objectifs du filet de sécurité, à savoir l'absence de frontières, l'intégrité de l'économie de l'Irlande et la protection du marché unique.
Ce travail doit être fait par le Royaume-Uni et non l'inverse. Nous voulons rappeler que c'est le Royaume-Uni qui quitte l'Union européenne et non l'Union européenne qui quitte le Royaume-Uni.
Un Royaume-Uni qui, après 3 ans de débats, commence à fatiguer. Boris Johnson, lui, continue de se montrer confiant.
Cet après-midi, il évoque même un dialogue encourageant.
Je salue les appels constructifs que j'ai reçus au cours des 24 dernières heures, notamment avec le président Juncker, la chancelière Merkel et le premier ministre irlandais Varadkar, ainsi que la déclaration du président Juncker selon laquelle la Commission va maintenant examiner le texte juridique de manière objective. Si nos voisins européens choisissent de ne pas faire preuve de bonne volonté, eh bien, nous devrons partir le 31 octobre sans accord. Et nous sommes prêts à le faire.
Un discours de fermeté, alors que dans son propre pays, le Premier ministre est en mauvaise posture, il n'a plus de majorité, n'a pas réussi à obtenir des élections anticipées et a vu sa décision de suspendre le Parlement annulée par la Cour suprême britannique. Jeremy Corbyn. Dans ce contexte, difficile de convaincre l'opposition de la réussite de son projet.
Ces propositions sont irréalistes et préjudiciables. Et comme le sait fort bien le Premier ministre, elles seront rejetées à Bruxelles, rejetées par cette Assemblée et rejetées dans tout le pays.
Et pourtant, le temps presse. Si aucun accord de sortie n'est trouvé d'ici le 19 octobre, une loi votée par les députés oblige Boris Johnson à demander à Bruxelles un report de 3 mois du Brexit. L'incroyable feuilleton anglais pourrait bien ne pas être terminé.
Alors nous allons revenir sur tous les épisodes de cet incroyable feuilleton. Cette question, si j'ai bien compris, pas de frontières, avec frontières quand même, mais sans contrôle, sacré Boris, j'ai mal à la tête.
Oui, sans contrôle, mais avec contrôle quand même. Oui. Donc, quelque part, j'ai envie de dire ce soir qu'on est en train de se faire avoir, excusez-moi, parce que c'est Boris.
Allez-y, expliquez-nous pourquoi. C'est-à-dire
qu'il il y a des contradictions flagrantes entre le papier qu'il a envoyé à Jean-Claude Juncker en disant rassurez-vous, il n'y aura absolument pas de. Enfin, au contraire, il y aura des contrôles. Oui. Et il a dit ce matin à la Chambre des communes qu'il n'y aurait pas de contrôle. Oui. Y aura-t-il des contrôles ? Y aura-t-il pas de contrôle ? En tout cas, il a dit qu'il y aurait, comme vous le disiez, des points de contrôle physiques. Oui. Et je peux vous dire que ça passe très mal parce qu'en réalité, que s'est-il passé? Il a négocié politiquement le soutien des unionistes irlandais, le fameux DUP, qui a dit « Ok, maintenant j'accepte ce deal ». Et il a négocié le soutien des eurosceptiques, les 60 eurosceptiques. Et il se trouve aujourd'hui que même les conservateurs qui ont été exclus du parti seraient éventuellement prêts à l'adopter. Donc il a fait un calcul de politique intérieure en disant « Je vais obtenir cela, mais il y aura fatalement des frontières. Il ne faut pas abuser les gens, bien sûr qu'il y aura des frontières. »
Il a anticipé sur un refus de l'Europe, c'est ça que vous
nous expliquez? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que depuis le début, c'est ce que dit d'ailleurs la presse britannique de façon générale, c'est-à-dire qu'il fait tout pour qu'il y ait un accord, parce qu'on l'a même accusé, c'est-à-dire je vais vous proposer un accord, mais derrière je vais appeler les uns et les autres pour qu'éventuellement on me refuse cet accord. Donc voilà, et lorsqu'on dit qu'il a appelé Jean-Claude Juncker, il a également appelé Donald Tusk, le président du Conseil européen, qui était nettement plus réservé, et le Parlement européen hier a émis un avis extrêmement négatif.
Ils ont dit le plan de Boris Johnson ne constitue pas la base d'un accord.
Voilà, absolument, parce qu'il y aura encore des contrôles physiques. C'est évident. Et je peux vous dire que au cours des deux dernières heures, la police nord-irlandaise a dit qu'elle n'était pas là pour contrôler les points d'entrée. Vous disiez 250, il y a entre 250 et 300 points d'entrée pour la frontière. La police nord-irlandaise a clairement dit, pour le respect des accords du vendredi 5, qu'elle n'était pas là pour contrôler les frontières parce que, normalement, il n'y en avait plus. Donc, il y aura des frontières fatalement physiques. Et ça, c'est un mensonge de la part de Boris Johnson. Et c'est tout à fait inacceptable pour les Irlandais.
Michel Barnier, dans un anglais impeccable à expliquer. Nous continuerons à travailler pour parvenir... vous avez souri, c'est pas très sympa. Nous continuerons à travailler pour parvenir à un accord. Le non à l'accord ne sera jamais le choix de l'Union européenne. Donc on a Michel Barnier qui dit on va continuer à discuter. Le Parlement européen qui dit de toute façon, ça ne constitue pas la base d'un accord. Jean-Claude Juncker qui dit il y a des problèmes. Que pense l'Europe?
Écoutez, c'est là où il y a vraiment un enjeu politique pour l'Europe maintenant. C'est-à-dire que Boris Johnson a mis sur la table quelque chose qui n'est certes pas acceptable dans l'État, mais qui pourrait être la base, avec beaucoup plus de compromis de la part des Britanniques, qui pourrait être servir pour la base d'un éventuel accord. Le problème, c'est que c'est quasiment certain, je pense que c'est quasiment exclu, que ce sera pas possible de négocier un nouvel accord avant la date limite qui est le 19 octobre. C'est le 19 octobre, c'est ça, c'est dans deux semaines. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait, les Britanniques, en fait, ils ont dit, bon, on va prendre cette partie essentielle de l'accord de sortie qui a été négocié avec Theresa May, on va la sortir de l'accord et on va essayer de la remplacer avec quelque chose de complètement nouveau et assez vague dans deux semaines. C'est tout simplement pas possible. Et comme votre reportage vient d'expliquer, s'il n'y a pas de nouvel accord avant le 19 octobre, Boris Johnson est obligé, ou le gouvernement britannique est obligé de demander un nouveau report. Il y aura, et c'est là où je viens à l'enjeu politique pour les Européens, c'est qu'il y aura forcément... obligatoirement de nouvelles élections à assez court terme en Grande-Bretagne. Si l'Union européenne rejette totalement ces propositions de Johnson, de toute façon, cette campagne à ces élections vont être terribles. Ça va être parce que pour battre les eurosceptiques, pour battre Nigel Farage, Boris Johnson, il va aller 1000% eurosceptique et tout ça, ça risque de faire
mais
des dégâts.
Mais pourquoi vous dites enjeu européen ? Est-ce que l'Europe, elle est unie pour répondre à Boris Johnson aujourd'hui ? Est-ce qu'elle est sur une même ligne ? On a entendu Boris Johnson parler de Jean-Claude Juncker, parler d'Angela Merkel. Oui. Il n'a pas cité Emmanuel Macron. Il ne l'a pas appelé. Vous voyez ce que je veux dire ? Et pour cause, on sait qu'il est sur une ligne dure. Mais est-ce que là, on se retrouve avec une Europe qui reste unie, à votre avis, sur l'attitude à avoir vis-à-vis du plan de Boris Johnson ?
Oui, je pense que les Européens ont montré qu'ils étaient unis et ils continueront à l'être parce que le plan de Boris Johnson franchit une ligne rouge en introduisant cette idée de deux juridictions avec tous ces problèmes qu'il peut y avoir, c'est l'intégrité du marché unique. Et ça, tous les Européens y sont très attachés.
Pourquoi ? Parce qu'il y aura des failles.
Parce que, voilà, il y aura des portes ouvertes et il y a des produits qui essaieront de rentrer dans le marché unique par la petite porte, c'est-à-dire l'Irlande du Nord. Il y aura toutes les possibilités de fraude, de contrebande, surtout avec ces systèmes très alambiqués qu'on maîtrisera peut-être pas vraiment. Donc, c'est un très gros risque et le marché unique, c'est tout de même un des acquis, une base, un fondement essentiel de l'Union européenne. Et puis aussi, il y a le principe de solidarité. Et il ne faut pas oublier qu'en Europe, il y a énormément de petits États qui sont tout à fait solidaires de l'Irlande parce qu'ils voient que l'Irlande est un État très vulnérable. C'est un petit État vulnérable à côté de ce grand voisin qui décide de faire des choses alors qu'il est, il est concerné au premier chef et il n'est même pas consulté. Je vois que Boris Johnson n'a même pas informé son homologue Leo Varadkar, le Premier ministre irlandais, de son plan. Il l'a appris par la presse.
Oui, voilà. C'est donc une mauvaise base, forcément.
C'est tout de même dommageable.
Anne-Elisabeth Moutet, sur la réaction de l'Europe, qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Parce que lui, il va jouer, et on l'a déjà entendu, il va dire « Ah ben, moi, j'ai fait une proposition sérieuse, crédible ». C'est eux qui ne veulent pas.
Déjà, il a réussi, on va en parler plus tout à l'heure, mais enfin, il a déjà réussi à calmer une partie de son parti. Et sans ça, il ne pouvait pas travailler. Donc, il était tout de même obligé de le faire. La réaction de l'Europe, en réalité, madame a tout à fait raison, le marché unique, ce n'est pas négociable. Là où j'ai peut-être un doute, c'est pour faire de la contrebande en passant par l'Irlande du Nord, ça rajoute des coûts qui sont pratiquement équivalents à des coûts de douane, parce qu'il y a le transport, oui, etc. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit... C'est assez facile de faire passer quelque chose entre la France et la Belgique, mais entre l'Italie et l'Irlande du Nord, il y a tout de même des coûts supplémentaires. Sur l'unité européenne...
Ce que j'essaie juste, pardonnez-moi, de comprendre, c'est est-ce qu'on est... On a la possibilité, dans les semaines qui viennent, les jours qui viennent, de rentrer dans une nouvelle phase de négociation sur la base de ce qu'a proposé Boris Johnson.
Alors, autant du côté anglais, il faut que ça ressemble à une négociation, autant du côté européen, il faut que la posture qui existe depuis 3 ans continue, c'est-à-dire nous ne sommes pas en train de négocier, on fait des ajustements à la marge. C'est-à-dire qu'ils ont chacun un besoin de convaincre de la manière opposée. Ouais. Les Anglais, c'est on finit par faire plier l'Europe, et l'Europe, c'est vous voyez qu'on n'a pas plié.
D'accord.
Mais cela dit, on sent bien que la ligne dure Macron n'est pas vraiment une ligne qui plaît aux autres Européens et par les autres Européens.
La ligne dure Macron, ça veut dire qu'ils sortent.
Oui. Les Allemands veulent pas. Si on veut être absolument brutal, les Allemands veulent pas, les Hongrois veulent pas, enfin tout un tas de gens ne veulent pas parce que c'est trop brutal, que ça prive l'Union européenne des 27, des 12 millions déjà le départ sans deal, ils vont se retrouver avec 12 milliards d'euros en moins de contributions britanniques. Si ça se passe en plus dans une situation difficile, c'est pas une bonne chose puisqu'il faut tout renégocier et que les échanges sont très importants. Donc Je pense que on est aussi arrivé à la charnière entre deux commissions, puisque la commission de Mme Vestager prend ses fonctions au même moment où se passe le Brexit, et ils sont déjà en train de considérer comment ils vont faire les choses par la suite. Michel Barnier, il va être conduit, mais enfin, c'est un caretaker tout de même. C'est un moment, il est là pour s'occuper des affaires courantes, mais enfin bon, son mandat s'achève le 1er novembre.
Est-ce que vous diriez, Patrick Martin...
Il y a une possibilité de négociation qu'on n'appellera pas une négociation en Europe.
On a bien compris le point de vue des Britanniques avec la difficulté d'obtenir un report et ce que vous avez expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que s'il n'arrive pas, il va falloir qu'il sera son Parlement va lui imposer de renégocier un report. Est-ce que Patrick Martin-Jeunier, du côté européen, on veut aussi un report?
Ah oui, manifestement, si on n'arrive pas à négocier l'accord proposé par Boris, on est partisan d'un report. Sauf que...
La France aussi.
Oui, sauf Emmanuel Macron. Effectivement... En effet, il est sollicité un report. Au-delà des 2 ans, un seul État peut mettre son veto à ce report au Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement.
Il faut prendre cette responsabilité.
Et donc,
c'est une responsabilité
essentielle. Et donc, je ne vois pas quel État accepterait de mettre son veto pour aller vers le chaos généralisé. Ce qui veut dire aujourd'hui que l'Union européenne, elle a une base de négociation. C'est pour ça qu'elle était extrêmement prudente. Vous avez remarqué les déclarations prudentes de Juncker. Il a appelé Angela Merkel. Donc, je pense que cette négociation qui a été faite par Boris, aussi imparfaite soit-elle, constitue une base de négociation sur laquelle
pour
l'Union européenne...
Pour obtenir quoi? Ce serait
pour obtenir de signer l'accord de Boris Johnson qu'il pourrait... Oui, parce que que vont-ils faire? Ils sont en train de calculer, ils ont leur tablette, ils sont en train de calculer est-ce que l'accord proposé par Boris Johnson est susceptible de recevoir l'aval de la Chambre des communes. C'est ça qu'on est en train de calculer à Bruxelles. Et aujourd'hui, on est en train de voir que pour la première fois depuis 2 ans, un Premier ministre est susceptible de recevoir l'accord de ses partis politiques, notamment le Parti conservateur.
Peu importe l'accord, avec toutes les réserves que vous avez évoquées.
Avec les réserves, mais naturellement, on est loin d'un accord, mais ça veut dire que si l'Union européenne acceptait cette base, nécessairement qu'il y aurait de la part de l'Union européenne des concessions assez importante, notamment sur l'aspect de la frontière entre les Irlandes.
Et pour l'instant, ils ne sont pas du tout prêts à faire ces concessions. Je pense qu'il faut le dire, parce qu'on est là dans une... On est vraiment, c'est assez marrant, on est dans la situation inverse qu'on a été jusqu'ici, c'est-à-dire qu'avant l'accord de Theresa May, c'était d'accord pour l'Union européenne, pour les 27, c'était pas du tout d'accord pour le Parlement britannique, qui l'a refusé à 3 reprises. Maintenant, on a un accord qui pourrait être acceptable pour le Parlement britannique, mais pour l'instant, n'est pas du tout acceptable pour les Européens.
Comment il a réussi ce coup de force, Boris Johnson? On a fait 15 émissions pour expliquer qu'il n'y aurait jamais de majorité sur un plan de sortie.
Moi, je l'explique.
Alors, allez-y, Patrick.
L'explication, c'est que c'est une négociation de pure politique intérieure. Qu'il a négocié avec les unionistes nord-irlandais que l'exécutif, le gouvernement régional pourrait mettre son veto à tout accord ultérieur et que l'Assemblée régionale d'Irlande du Nord pourrait négocier et parlementer sur ce point. Donc c'est un accord avec les unionistes nord-irlandais qui, au final, va lui permettre d'avoir le soutien de ce parti politique et, par conséquent, le soutien des eurosceptiques.
Comment est-ce qu'il a fait? On aurait fait l'émission la semaine dernière, on aurait raconté l'histoire d'un Boris Johnson acculé, humilié par la Cour suprême, qui avait raté son coup de force vis-à-vis du Parlement. Comment est-ce qu'il a réussi à retourner la situation? Puisqu'en vous écoutant attentivement, je me dis, tiens, il a repris l'avantage.
Écoutez, le jugement de la semaine dernière de la Cour suprême, même si c'était historique et extrêmement important sur le plan de la démocratie britannique, parce que ça a confirmé de façon vraiment très forte.
Vous pouvez nous rappeler ce qui s'était passé
Ils ont dit que c'était en fait la décision de Boris Johnson de suspendre le Parlement pendant 5 semaines en pleine crise de Brexit était illégal parce que ça a privé le Parlement, les députés, de leurs droits et de leur obligation de surveiller et contrôler les activités du gouvernement. Ça a confirmé qu'en Grande-Bretagne, même s'il n'y a pas de constitution écrite, le Parlement est souverain. Donc même si c'était historique, ce verdict, ce jugement, ça n'avait en fait assez peu à voir avec le Brexit. Avec les calculs du Brexit, ça n'avait pas vraiment d'importance. C'était important pour la démocratie, la constitution, mais ça n'avait très peu à voir avec le Brexit.
Oui, mais à ceci près que si le Parlement avait été prorogé, aujourd'hui, il n'aurait pas pu questionner le Premier ministre sur son plan. Donc, cette décision de la Cour suprême a quand même servi l'intérêt du Parlement et puis de la démocratie.
Oui, mais ça n'a pas empêché Boris Johnson de faire avancer son plan.
Alors, Boris Johnson qui se retrouve aujourd'hui avec un parti, vous nous avez expliqué tout à l'heure que certains pouvaient revenir, en tout cas qui semble divisé. On avait parlé de ces 21 députés de son camp qui avaient claqué la porte, qui avaient été exclus. Et tout a commencé, en fait, cette histoire dans le vieux parti de Winston Churchill avec David Cameron. C'est lui qui a décidé de faire un référendum sur la sortie de l'Europe. Aujourd'hui, dans ses mémoires, il se dit affligé de l'état de son pays. Myriam Zéhar, Aurélie Saner.
Son livre se trouve dans toutes les librairies britanniques. En tête de gondole, les mémoires de l'ancien Premier ministre David Cameron rappellent aux Anglais que l'artisan du Brexit, c'est lui. Après plusieurs mois de silence, il revient sur ce moment d'histoire.
Vous me demandez si j'ai des regrets. Oui. Est-ce que je suis désolé de l'état dans lequel se trouve le pays? Oui. Est-ce que je me sens en partie responsable de ça? Oui. C'était mon référendum, ma campagne. Et j'accepte tout cela. Et les gens qui regardent ce programme devront juger quelle est ma part de responsabilité.
Le Brexit, un paradoxe pour celui qui a passé 6 ans au 10 Downing Street. Ce référendum, David Cameron l'a voulu à l'époque pour contrer les europhobes. Une consultation populaire qui a finalement fragmenté sa famille politique.
Quand nous aurons négocié ce nouvel accord, nous proposerons au peuple britannique un référendum avec un choix très simple de rester ou partir. Rester dans l'Union européenne sur de nouvelles bases ou sortir tous ensemble.
Le Premier ministre engage alors le pays dans un long feuilleton politique. Il fait campagne pour rester dans l'Union européenne sous de nouvelles conditions. Mais malgré ses efforts, le 23 juin 2016, le camp du Brexit l'emporte. Au lendemain du scrutin, David Cameron annonce son départ pour l'automne.
Je ferai tout mon possible en tant que Premier ministre pour maintenir le navire à flot lors des semaines et mois à venir. Mais il ne serait pas juste que je sois le capitaine conduisant le pays vers sa prochaine destination.
Les conservateurs vont toutefois rester à la barre, avec difficulté. Même le décor lâche Theresa May. 28 parlementaires, issus de son propre parti, vote carrément contre l'accord qu'elle porte devant la Chambre des communes, avant qu'elle ne quitte le navire en mai dernier. Aujourd'hui, la scission au sein des Tories ne fait plus de mystère. Début septembre, un député conservateur, ici en veste grise, commet l'impensable en rejoignant le banc de l'opposition. Sous les yeux du nouveau patron du parti Boris Johnson, qui garde son sang-froid, mais perd sa courte majorité.
Je souhaite le meilleur à mon ami.
Et ce n'est qu'un début. Le lendemain, 21 députés conservateurs opposés à une sortie sans accord sont exclus de leur parti. Parmi ces rebelles, ce parlementaire, petit-fils de Winston Churchill.
Je ne me présenterai pas à la prochaine élection et j'approche des 37 ans de service dans cette maison dont je suis fier et honoré de faire partie. Je suis vraiment très triste que cela se termine de cette façon. Et mon plus grand espoir est que cette institution redécouvre l'esprit de compromis, d'humilité et de compréhension.
Jamais le parti n'a connu telle résistance. Mais Boris Johnson, responsable de ces exclusions, veut rester ferme.
Cela m'a profondément affligé. Je ne veux pas tout cela. Ce sont des amis à moi, j'ai travaillé avec eux plusieurs années. Mais aujourd'hui, nous devons faire en sorte que le Brexit ait lieu.
Lundi, au congrès du parti à Manchester, les députés exclus ont tout de même tenu à faire entendre leur voix sur le Brexit. Dans une salle bien à l'écart, certains espèrent même un nouveau référendum.
Si nous avons des élections anticipées, je pense que les divisions au sein du parti vont s'accentuer. Mais si nous arrivons à nous réunir et décider par référendum, je pense que le parti conservateur, même si la campagne référendaire nous divise, a la capacité de se rassembler.
Des conservateurs qui se déchirent, cela n'affecte pas pour autant la stratégie de Boris Johnson. Selon les sondages, en cas d'élection, les Tories, même divisés, auraient une dizaine de points d'avance sur les travaillistes.
Alors, nous allons venir sur les amis de Boris Johnson, mais cette question, on a toujours une question sur la reine. Est-ce que la reine pourrait destituer Boris Johnson?
Non. Non, elle ne va pas le faire, mais elle peut.
Elle peut. Ah, elle peut.
Dans des,
elle peut,
dans si des elle conditions.
John Henley, allez-y.
Bah, écoutez, elle n'est pas censée. C'est très compliqué. Et ça n'aide pas qu'il n'y a pas de constitution écrite, codifiée. Elle ne le ferait jamais. Dans des conditions exceptionnelles, oui, elle pourrait.
Elle a consulté.
Oui.
Elle a consulté des gens dans son équipe et ça a fuité en demandant dans quelles conditions est-ce que je peux destituer le Premier ministre.
Elle a posé la question.
Oui. Elle a posé la question. Alors évidemment, il faut qu'elle pose la question. Je veux dire. Évidemment, qu'on sait, la fuite n'est pas idiote et donc on n'a pas eu la réponse. Mais la question s'est posée et c'est une arme même en soi. Je veux dire, laisser fuiter l'idée qu'elle a posé la question, ça veut dire maintenant, les enfants, arrêter la récré et puis travailler.
Mais constitutionnellement, constitutionnellement, je pense qu'elle aurait, il y aurait juste un moyen pour elle de pouvoir le faire. C'est à l'issue d'une élection. Si c'est elle qui doit nommer le Premier ministre. Mmh. Et je pense que peut-être à cette occasion-là, elle pourrait refuser de le nommer comme Premier ministre. Il y a eu des exemples, un ou deux exemples dans l'histoire. Donc elle pourrait dire, voilà, je choisis quelqu'un d'autre.
Ce serait une façon de le destituer, de s'en débarrasser.
Je pense que
ça n'est pas ingénieux.
Alors voilà, on reviendra après sur les élections.
Alors c'est vrai. Non, je Et donc, il y a une autre hypothèse dans laquelle, éventuellement, elle pourrait destituer le Premier ministre, ça a fuité. Alors, est-ce que c'est des fuites bienveillantes ou malveillantes? Ce serait si Boris Johnson refusait d'appliquer la délibération du Parlement qui l'oblige à aller trouver un report jusqu'au mois de janvier 2020, car ce serait une trahison de la souveraineté parlementaire. Et naturellement, dans ce cas-là, ce serait une violation très claire de la loi, et dans ce cas-là, elle pourrait le destituer, car elle reste tout de même chef de l'État, et la Cour suprême pourrait être également saisie sur ce point.
Il faudrait encore d'abord, avant cette destitution, il faudrait une décision de la Cour suprême.
C'est surtout la Cour suprême.
En tout cas, on pense, c'est une vraie question désormais qui est posée.
Mais c'est inconcevable que si Boris Johnson gagne des élections et qu'il est vraiment la personnalité qui a gagné les élections, parce que les conservateurs perdraient dans toutes les autres cas de figure, c'est pas concevable que la reine, à ce moment-là, refuse de le nommer.
Quel est le scénario le plus probable pour les semaines qui viennent? On a vu dans le reportage qu'il y avait eu des défections dans le camp des conservateurs. Vous nous disiez tout à l'heure, oui, mais peut-être qu'il reviendrait et qu'il aurait une majorité pour faire passer son plan. Simplement, qu'est-ce qui peut se passer dans les semaines qui viennent?
Je pense
si on
que
prend
le scénario
jusqu'au 31.
Vraiment, là, je prends un gros pari, hein, parce que c'est quasiment
grave.
Impossible. Mais je pense qu'un scénario très possible, c'est qu'il n'y a pas d'accord donc avant le 19. Donc, le gouvernement, Boris Johnson, est obligé d'aller à Bruxelles demander un nouveau report. Lui, il a juré qu'il préférait mourir dans un fossé avant de faire cela. Il l'a dit publiquement. Donc, je pense que ce serait très difficile politiquement pour lui de faire ça. Donc, il pourrait très bien démissionner. Il pourrait très bien avoir un gouvernement technique, un peu à l'italienne, qui aurait pour seul but d'aller à Bruxelles, demander le nouveau report et de déclencher de nouvelles élections, de dissoudre le Parlement, déclencher des élections. Après, il y aurait des élections, ça on peut en parler, ça va être terrible, que Boris Johnson, si on croit les sondages, est très très bien placé pour gagner. Il a 12 points d'avance dans les sondages.
Et là, qu'est-ce qui se passerait? Imaginons un gouvernement technique qui négocie un rapport et un report et un Boris Johnson qui revient à la faveur d'un vote.
Et là,
est-ce qu'il y a d'autres scénarios qui sont envisagés depuis le début? Vous parlez des élections. Oui. Vous avez l'air de considérer que, de toute façon, la Grande-Bretagne ne pourra pas faire l'économie d'un nouveau scrutin.
Tout à fait. Il y en aura eu trois six ans. Oui, trois élections. C'est énorme, quoi, je veux dire, à ce rythme-là. Et le problème, c'est que ça va être terrible, ces élections. Il va y avoir des campagnes féroces. Bon, les partis politiques vont bien se positionner en fonction de l'Union européenne. Ça va être le Brexit qui va tout déterminer, qui va déterminer en grande partie le débat.
Tout le monde les souhaite, ces élections?
Alors, plus ou moins, parce que le chef de l'opposition, justement, n'est pas très bien placé. Et lui, il a dit, il veut attendre. Il veut attendre d'abord qu'on règle le problème du report et après, peut-être, organiser des élections. Mais là, il faut attendre le 31 octobre.
Une autre question très simple. On ne peut pas avoir d'élections avant le 31 octobre? C'est trop tard.
Ah, il faut les organiser. Non, c'est plus possible maintenant. Voilà. Il faut 5 semaines.
Il y avait des choses qui n'étaient pas possibles, comme possible. Avoir des députés britanniques qui siègent au Parlement européen alors qu'ils sont en train de sortir.
C'est ce que Boris Johnson voulait.
Il y a un autre point qui est important, c'est que comme le mandat parlementaire n'est pas à son terme, il faut une majorité des 2/3 des parlementaires pour décider de nouvelles élections. Ce qui veut dire que si Jeremy Corbyn n'en veut pas, il n'y aura pas ces nouvelles élections.
Quel est le climat? Vous dites que ce sera des élections terribles. En préparant cette émission, j'ai trouvé une déclaration d'une députée travailliste, c'était le 25 septembre dernier, elle disait « Je n'ai pas peur des futures élections, j'ai peur d'être blessée ou d'être tuée. » Sur le climat qui règne autour des élus pro et anti Brexit, on a l'impression, vu d'ici, que le climat s'est sérieusement durci ces derniers
mois. Alors, on a vu qu'il y a eu quelqu'un qui était mort, quelqu'un qui est une députée qui a été assassinée, qui était d'ailleurs une députée conservatrice, Jo Cox, il y a 4 ans, je crois.
Oui.
Maintenant, elle était travailliste, Jo Cox.
Elle était travailliste.
Trou dans la tête. Je ne devrais pas dire ça. Mais cela dit, cette situation absolument épouvantable et cette espèce de transformation du débat de quelque chose de relativement civilisé, où on considérait que la personne en face de vous avait le droit d'avoir une opinion différente, à une polarisation quasiment trumpienne, ça c'est nouveau. Maintenant, je dirais que pour le Parti travailliste, le débat même au sein du Parti travailliste, parce que le parti qui se trouve, les députés qui ont été envoyés à l'Assemblée au Parti travailliste, n'ont rien à voir avec les gens qui ont le pouvoir au Parti travailliste autour de Jeremy Corbyn, que d'ailleurs, on est en train de préparer ce qu'on appelle en anglais leur désélection, c'est-à-dire qu'on ne va pas les autoriser à se représenter dans leur propre circonscription, ce qui ne sont pas assez gauchistes pour les gens autour du leader. Et tout ceci considérablement aggravé par les plaintes répétées avec de plusieurs députés travaillistes d'insultes antisémites graves, d'antisémitisme institutionnalisé au sein du Parti travailliste, qui font qu'un certain nombre, avant de voir partir des gens d'un côté à l'autre de la Chambre pour des raisons de Brexit, on en a vu qui ont fait ça pour des raisons d'antisémitisme.
Ce que vous voulez nous expliquer à la question, c'est un climat qui est très tendu, c'est s'étendu entre les pros et les anti, mais s'étendu au sein même...
Au sein des partis. Au sein du Parti conservateur, il ne faut pas oublier que Boris Johnson a viré du parti 21 députés conservateurs qui ont voté contre lui le mois dernier.
Et ça, ces 21-là...
Dont le petit-fils de Winston Churchill, donc annoncé deux anciens ministres des Finances, non. Pas menacés de mort, mais ils sont virés du parti.
Et ces 21-là, il ne peut plus compter sur eux, Boris Johnson, ou est-ce qu'il pourrait revenir? Parce que la question est très simple, je vais poser. Est-ce qu'il a une majorité aujourd'hui, Boris Johnson?
Non, il n'a pas de majorité, une majorité d'à peu près moins 43 en ce moment.
que disent les sondages s'il y avait des élections aujourd'hui ou dans quelques semaines? Qu'est-ce qui se passerait? Que disent les sondages, les enquêtes?
Les conservateurs sont en tête, ils ont une avance de 12 points sur les travaillistes. C'est extrêmement difficile, il faut le souligner, on ne peut pas répéter suffisamment souvent, que les sondages en Grande-Bretagne, ils donnent une tendance, mais de là à calculer le nombre de sièges, parce qu'on n'a pas du tout un système à la proportionnelle. Ça, vraiment, ce qui compte, c'est qui gagne dans chaque circonscription. Donc un sondage qui donne une tendance nationale, et c'est très, très difficile d'interpréter ça en termes de sièges. Mais pour l'instant, je pense qu'on peut, on peut vraiment dire que les conservateurs sont en tête.
Il y a une hypothèse qui a été totalement écartée, c'est celui d'un nouveau vote pour un nouveau référendum. Parce que j'ai vu un sondage qui, s'il y avait un nouveau vote, ce serait le Remain qui serait devant. C'est une hypothèse désormais qui est sortie du jeu.
Ce n'est pas. Les sondages ne sont pas très clairs. On pense qu'il y a une légère avance pour le Remain, mais en même temps, il y a une radicalisation de tous ceux qui veulent sortir. Alors, c'est très difficile de savoir exactement.
Ça veut dire quoi, radicalisation de tous ceux qui veulent sortir?
Ceux qui ont voté pour le Leave sont encore plus. Se sont renforcés dans leur opinion. Je ne sais pas, sans doute sensible peut-être au message de Boris Johnson, et puis au fait qu'ils en ont. Il y a une extrême lassitude, je crois, de la population qui voit que vous avez dit, ce feuilleton interminable n'en finit plus, et que pendant qu'il y a ce feuilleton, eh bien, on ne parle pas des choses importantes
et des vrais sujets.
L'hypothèse
du no deal qu'on a très souvent évoquée ici est-elle plus crédible après la présentation de ce plan de Boris Johnson, ou au contraire, est-ce que le no deal s'est un peu éloigné?
Non, j'ai l'impression que ça se renforce, cette hypothèse du no deal, avec l'opposition de l'Union européenne, car comme on le disait tout à l'heure, autant ça risque de bien se passer à la Chambre des communes, autant si du côté de l'Union européenne, ça coince. Ça coince. Le Parlement européen a d'ores et déjà dit qu'il mettrait son veto à ce pseudo-accord, parce que ce n'est pas un accord au final, hein, puisqu'on rétablit de fait certaines frontières sans le dire. On ment en réalité sur le sort qu'on va réserver aux Irlandais. Donc du côté de l'Union européenne, ça ne passe pas. Sauf qu'aujourd'hui, on semble voir une division au niveau de certains chefs d'État et de gouvernement. Et c'est nouveau parce qu'on sait très bien qu'Angela Merkel veut absolument un accord, que la France est plutôt sur une ligne dure et qu'on l'a bien vu, que les Européens sont divisés. Par conséquent, cet accord pourrait être accepté au Conseil européen. Il y aura effectivement de longs débats. Ça va durer toute la nuit. Ce sera du 17 au 18 octobre à Bruxelles. Et on voit bien qu'aujourd'hui, malheureusement, le no deal est, selon moi, plus probable qu'un accord.
Il aura réussi à diviser l'Europe ?
Absolument, mais c'est on peut même dire que c'est un génie politique pour l'instant, parce qu'on va bien voir ce qu'il en est, mais il est en train de mettre tout le monde d'accord chez lui, parce qu'on a parlé des conservateurs, mais chez les travaillistes, je ne sais pas si vous avez vu, il y en a entre 20 et 30 qui seraient prêts à voter pour un accord, parce qu'ils ont peur des élections.
Parce qu'ils représentent des circonscriptions qui ont voté
tout
pour
à fait,
partir.
Tout à fait.
En tout cas, depuis le début du Brexit, la livre sterling a déjà baissé de 20%, conséquence visible de l'instabilité dans laquelle se trouve maintenant depuis des années le Royaume-Uni, mais il y a un sujet qui préoccupe en particulier les chefs d'entreprise, l'emploi, le recrutement. Nous avons rencontré des patrons français installés à Londres avec la fermeture des frontières. Ils craignent de se retrouver en panne de main-d'œuvre, une main-d'œuvre très spécialisée, très qualifiée. Paul-Rémy Barjavel, Emmanuel Bach.
L'enseigne porte son nom, Auré, comme Laurent Doré, le fondateur de cette boulangerie à Londres. Depuis 5 ans, cet ancien Parisien vit dans la capitale britannique avec sa femme Elisabeth. Aujourd'hui, il possède 3 boulangeries et malgré le Brexit, il compte bien se développer.
Il y a 12 millions d'habitants à Londres. Ils sont friands en grande partie de tout ce qui est pain, pâtisserie, a fortiori français, puisqu'on a un savoir-faire quand même que tout le monde connaît à l'international. Et donc l'objectif ici, c'est d'ouvrir à peu près une vingtaine de boulangeries à Londres.
Le savoir-faire français à l'origine de son succès. Laurent Doré a une seule inquiétude liée au Brexit sans accord, la difficulté à recruter. Car ici, tout repose sur une main-d'œuvre provenant de l'Union européenne, des Italiens, des Allemands ou des Français.
Il n'y a aucun Anglais qui veut travailler dans les jobs dans la restauration. En tout cas, ils sont preneurs de jobs dans les pubs. Ils sont très contents de servir dans les pubs. Mais par contre, pour en avoir un en boulangerie, pour en avoir un dans toutes les grandes chaînes d'ailleurs, ça va être un vrai sujet pour toute la restauration, pour d'autres industries aussi, comme la construction ou l'agriculture.
Les flux migratoires risquent de se tarir. Même si Londres assure qu'un permis de séjour de 3 ans sera proposé aux ressortissants européens après un Brexit sans accord. Des secteurs comme la restauration, la santé, le bâtiment ou encore la recherche risquent donc une pénurie de main-d'œuvre. Autre effet potentiel d'un no deal, la chute de la livre sterling. Depuis le référendum sur le Brexit en juin 2016, la monnaie a déjà fondu de près de 20%, comme si elle anticipait les difficultés à venir et elle est instable. Les prix des importations de matières premières ont donc déjà augmenté. Aux frontières, les autorités britanniques craignent des files de camions interminables et donc une baisse du trafic. Pas rassurant pour Vincent Saladin, primeur à Londres depuis 15 ans et dont les produits sont importés de France.
C'est des produits qui sont très fragiles. Hein, un jour de plus dans un camion, ça commence à bouger, même s'ils sont réfrigérés. Et puis en parallèle de ça, tout ce qui est saucisses, charcuterie, les fromages... C'est pareil, c'est des yaourts, comme il y a au fond, c'est des produits avec des dates qui sont assez courtes. Les yaourts, ça peut être 2 semaines, mais vous voyez en charcuterie, en traiteur, ça peut être 5-6 jours. Donc si vous enlevez 2-3 jours là-dessus, ça veut dire qu'on n'a plus que 3 jours où on va pouvoir vendre ces produits. Donc c'est des pertes plus importantes, c'est est-ce qu'on continue les produits, est-ce qu'on fait des choses qui sont sous conserve.
Finalement, c'est toute l'économie britannique qui risque une récession durable. En tout cas, ce spécialiste l'annonce lors d'une conférence sur le Brexit sans accord au King's College, une université londonienne réputée.
Il se peut que l'on soit déjà en récession en prévision d'un Brexit sans accord. En cas de no deal, je pense que l'on sera en récession, mais sa sévérité est encore incertaine. Elle va dépendre de la réaction des consommateurs et des milieux d'affaires. Elle va dépendre aussi de la confiance à court terme en cas de no deal et des événements politiques.
Entre avril et juin dernier, le PIB du Royaume-Uni a baissé de 0,2%. Son premier repli d'un trimestre sur l'autre depuis fin 2012.
John Henley, c'est très concret. Hein, du coup, la livre sterling qui chute pour les Britanniques, du coup, c'est pas juste un indice. C'est-à-dire que les conséquences du Brexit, ils les voient déjà dans leur quotidien.
Écoutez, ils commencent à les voir. Ouais. Mais le problème pour ceux qui veulent que la Grande-Bretagne reste ou au moins part avec un bon deal, c'est que l'actualité économique traîne considérablement derrière l'actualité politique. Mmh. C'est-à-dire que même si, comme a dit votre reportage, le PIB commence à baisser, le livre sterling a chuté, c'est pas encore suffisamment, et on le voit dans les sondages, les Britanniques, en général, pour l'instant, les chefs d'entreprise,
voir.
Oui, mais le Britannique dans la rue, l'homme dans la rue, comme on dit en anglais, ne le sent pas déjà dans ses poches.
Ouais. Pas suffisamment pour le faire changer d'avis,
voilà.
C'est ça.
Voilà.
Il y a aussi le fait qu'au début, on a prédit les choses les plus apocalyptiques immédiatement, dès le vote, de partir, que ça ne s'est pas réalisé parce que rien ne changeait, et que les gens, disons, nous a menti, et ils appelaient ça « Project Fear », c'est le truc pour nous faire peur. Et on ne va pas parler de système d'histoire, d'usines frappées par des accidents graves, mais quand vous mentez aux gens une fois, et ben ensuite, ils s'en souviennent. Donc ça, c'est le vrai problème.
Sur l'impression que ça flotte, on voyait des patrons français qui se disent comment on va faire. Il y a quand même encore quelque chose qui donne un sentiment d'impréparation. Je rappelle que c'est à la fin du mois.
Comme vous l'avez dit, ce patron de boulangerie, il n'y a pas un Anglais. Moi, je suis allé à Londres au mois de janvier, il y avait des Polonais, des Italiens, des Français. Il n'y avait pas d'Anglais. Par conséquent, ils ont besoin de cette manœuvre. Et récemment encore, c'est votre excellent journal qui a relaté ce fait, une personne, un professeur d'université américaine devait venir enseigner et à Oxford, à l'université Oxford, elle n'a pas obtenu les visas pour ses enfants.
Pourquoi ? Donc, pour quelle raison ?
Parce qu'on est dans une euphorie totalement anti-migratoire, contre les visas.
Compris avec les Américains ?
Y compris avec les Américains, avec tout le monde. Il y a une sorte de, effectivement, on veut se protéger de ses frontières, prendre le contrôle des frontières. Les Polonais, même chose, certains sont en train de repartir en Pologne. Et il y a un fort sentiment de xénophobie et de racisme qui se développe. On parlait du climat de violence, d'antisémitisme, mais c'est aussi vis-à-vis de toutes les main-d'œuvre étrangères qui fait que
ils
ça
veulent
va
les
être
voir
extrêmement.
Partir.
Oui, il y a ce sentiment, ils veulent les voir partir. Il y a un sentiment xénophobe qui se développe aujourd'hui en Grande-Bretagne. Et avec ce climat de violence dont nous parlions, plusieurs députés ont reçu des menaces de mort, certaines ont été agressées, des locaux, des permanences parlementaires ont été plus ou moins prises d'assaut, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est dans un climat très, très violent.
C'est le cas aussi en France, hein, entre parenthèses.
Oui,
sur
mais
les
je, pense
agressions des
je pense qu'on aussi, c'est aussi quelque chose, c'est vraiment, je pense qu'on peut vraiment parler d'un pays, sinon déchiré, au moins divisé, mais un point énorme. Et c'est un clivage qui va durer, je pense vraiment, il faut le souligner, ce sont des clivages qui vont durer des générations. Il y avait un sondage extraordinaire il y a 2 semaines. L'une des questions, c'était aux têtes chefs de famille aux parents, en gros. Aux parents, comment vous vous sentirez si l'un de vos enfants voudrait se marier avec quelqu'un d'une famille qui a voté l'autre sens dans le référendum. Il y a plus de la moitié qui ont dit qu'ils se sentiraient très ou extrêmement mécontents. Je veux dire, ça va marquer la société britannique pendant des générations.
Alors, il y a une chose absolument. Sur la main-d'œuvre, c'est assez compliqué, parce qu'en réalité, il y a de la main-d'œuvre britannique, mais elle n'est pas au bon endroit. C'est plus facile de venir de Paris et de prendre une colocation avec des gens que de se déplacer, de quitter une maison qui, si vous, par hasard, vous la possédez, vous ne pouvez pas la revendre parce que personne ne veut l'acheter. Les loyers et les coûts immobiliers sont tellement énormes dans la gigantesque métropole londonienne que des Polonais acceptent de vivre à 5 dans une chambre, mais pas des gens du Yorkshire qui ont l'habitude d'avoir un tout petit peu plus de place. passe. Et le problème, c'est que la fission qui a aussi amené la différence entre le vote pro-Brexit et anti-Brexit est la même fission qui fait que certaines personnes vont chercher du travail et en trouver, et d'autres n'ont pas les... Ils ont des barrières à l'accès, simplement, à la possibilité de trouver du travail.
Cette question, beaucoup d'entreprises fuient-elles le Royaume-Uni? Alors ça, c'est... Est-ce que beaucoup sont partis? Oui.
Il y en a pas mal. Pour l'instant, c'est les Pays-Bas qui en profitent le plus. Et je pense qu'il y a 300 entreprises britanniques qui se sont déjà installées aux Pays-Bas.
À la France?
Aussi, mais moins que les Pays-Bas. C'est surtout une question de maîtrise d'anglais.
Mais en vous écoutant, j'ai l'impression que les conséquences économiques... Au fond, vous aviez très justement rappelé que quand on imaginait le Brexit, on se disait « ça va être terrible, les conséquences économiques vont être épouvantables ». Et au fond, la vie suit son cours, vous le diriez comme
c'est
ça.
C'est parce qu'on a encore quitté l'Union européenne. Le Brexit n'a pas encore eu lieu.
Au Pays de Galles. Au Pays
on trouve
tout
dans les magasins. Très aujourd'hui, si ça s'arrête, ça se verra tout de suite.
Les gens qui élèvent des moutons au Pays de Galles, on l'a vu il n'y a pas longtemps, les agriculteurs, les fermiers, vous allez exporter des moutons, augmentation d'un seul coup de 40% des taxes vers l'Union européenne. Ce qui veut dire que ça va ruiner des centaines d'exploitations. Aujourd'hui,
et ils ont voté Brexit.
Et ils ont voté Brexit. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, le Brexit n'ayant pas encore eu lieu, effectivement, on n'aperçoit pas encore ces aspects négatifs.
Voilà. Ils sont prêts. Les gouvernements très régulièrement disent à quel point les douaniers français sont prêts, etc. Est-ce qu'ils sont prêts en Grande-Bretagne?
Justement, ils ont eu un rapport là, que le Parlement a exigé, le rapport le rapport dit Yellowhammer, et pour expliquer donc, les conséquences d'un no deal. Et c'est assez catastrophique, puisque tout le monde a été atterré par... et c'est pour ça que le gouvernement ne voulait pas révéler ce rapport.
Atterré par quoi ? Par l'impréparation ?
Par tous les risques posés par une sortie sans accord. Alors, cela dit, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous à propos du no deal. Je pense sérieusement que la loi Ben est solide et je pense que dans l'immédiat, la loi Ben, c'est la loi que le Parlement a votée pour obliger Boris Johnson à demander un report de la sortie au cas où il n'arriverait pas à négocier un accord avec l'Union européenne. Voilà. Et je pense que j'ai écouté Dominic Grieve, qui est un bon juriste, et il a bien expliqué que cette loi était solide.
Oui, mais je ne dis pas qu'elle n'est pas solide. Elle est solide, mais il a dit qu'il ne la respecte pas.
Voilà. Oui, alors là, il finira devant les tribunaux.
Ah ben voilà.
Et ben nous, on va maintenant passer à vos questions. Ça ressemble à un ultimatum, non ? Ce que fait Boris
Johnson. Absolument, c'est un ultimatum. C'est à prendre ou à laisser. Nous sortirons quoi qu'il arrive.
Ça exaspère certainement les Européens, cette
complètement,
attitude.
Complètement, tout à fait.
J'arrive d'Angleterre et la grande majorité des personnes que j'ai vues sont favorables au Brexit. Alors pourquoi continuer à discuter ?
Parce que ce n'est pas le cas.
Ah bon?
Peut-être que la grande majorité des personnes que cette personne a rencontrées étaient pour le Brexit, mais les derniers sondages montrent que 55% pour 56% des Britanniques.
Mais ce que suggère cette question est très claire, c'est au fond, allons-y. Allons au bout et réalisons enfin ce pour quoi ont voté les Britanniques.
Tout à fait. Je pense qu'il y a une volonté de respecter le vote de 2016. Seulement, il faut définir comment. Et c'est ça la question. Et ceux qui luttent contre un Brexit dur veulent juste s'assurer que la Grande-Bretagne parte sur des bonnes conditions.
Ceux qui disent oui au no deal, ceux qui disent comme Boris Johnson, eh ben c'est pas grave, s'il n'y a pas de deal, on sortira, peu importe. Quel est l'argument qu'ils défendent en disant on s'en sortira très bien, la Grande-Bretagne deviendra souveraine? Quel est l'argument?
En réalité, il y a différentes attitudes de no deal. Je pense que Boris Johnson, qui sait en fait comment marche Bruxelles, il y a un aspect à la fois de matamor et de calcul politique de communication très particulier. Mais vous avez tout un tas de, tas de gens qui... c'est l'effet que me fait le no deal, vous savez. vous avez tout un tas de gens qui pensent sincèrement qu'on peut toujours s'en sortir et que ça va marcher et qui n'ont pas la moindre idée de la complexité. C'est pas tellement des histoires de camions bloqués en douane, ça va durer un mois, ça. Voilà. C'est les 10 ans de négociation des accords et l'incapacité de faire venir les biens au même prix pendant ce temps-là.
On va vous apporter un verre d'eau, quand même. Les premiers ministres anglais se suivent, mais le blocage perdure. Combien de temps l'Union européenne va-t-elle accepter cette situation ?
Je crois que ça ne tiendra pas bien longtemps, de toute façon, parce que s'il n'y a pas d'accord, il faut que l'Union européenne accepte de proroger le délai pendant 2 ans supplémentaires, et il se pourrait peut-être qu'un des États mette son veto, et donc ça partira. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il n'y a pas que cela. Il n'y a pas que les conditions de confort du Royaume-Uni. Il y a aussi ce qu'on a appelé la facture. Certains disent que ce n'est pas un bon terme, mais on doit payer entre 45 et 50 milliards d'euros à l'Union européenne. Et Boris Johnson fait du chantage en disant « je ne réglerai pas cette facture à l'Union européenne ».
On peut les obliger ?
Ça se finira certainement devant les tribunaux parce que ce serait considéré comme étant une rupture de paiement d'un État souverain.
Ce serait surtout très, 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 très dommageable pour la réputation de la Grande-Bretagne, la réputation internationale.
Pour le rating.
Pour le rating. Pour le rating. Alors, vous parlez tous en même temps, là, mais pour le rating, ça veut dire pour la note sur les marchés financiers de la Grande-Bretagne. Écoutons assez Londres à Bruxelles.
Ouf. Écoutez, on est prête à écouter Londres à Bruxelles si seulement Londres pouvait parler avec une voix et demander des choses qui, dans les yeux des Européens, étaient possibles.
Mais je vais ajouter quelque chose, qui est que Bruxelles n'a pas pris ça pour une question politique. Ils ont dit, vous dites des choses qui sont invraisemblables, et ça aurait probablement été une bonne chose dans les 3 premiers mois s'il y avait eu la compréhension que même si la réponse était une réponse absurde, il y avait une vraie question politique l'Union européenne, qui est malgré tout une force politique, aurait dû considérer en tant que question politique et pas comme question technique.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire en gros, on aurait dû faire en sorte qu'ils trouvent une majorité en Grande-Bretagne avant de leur dire
c'est pas possible. Seulement, c'est quand on dit nous ne voulons plus de l'Europe parce que l'Europe et non démocratique, opaque, etc. Au lieu de dire vous ne comprenez rien à l'Europe, il fallait se rendre compte qu'on avait un vrai problème de perception par des gens qui sont des populations européennes, puisque les Anglais sont encore dans l'Union, et essentiellement les Anglais ont joué les gilets jaunes de l'Union européenne.
Voilà. Ils ont le sentiment d'avoir été bernés en réalité. L'Union européenne a toujours écouté, et pendant des semaines, le négociateur britannique est allé à la Commission, et ils ont eu le sentiment d'avoir été menés en bateau pendant des semaines.
Au fond, le but est de faire porter le chapeau du no deal à l'Union européenne.
Absolument.
C'est ça ?
Absolument.
Oui, bien sûr.
Absolument.
Bien sûr.
Mais ça va dans les deux sens aussi. Oui. Parce qu'on est entré là dans une sorte, je ne sais pas du tout comment dire ça en français, mais une sorte de blame game, on appelle ça en anglais, où chaque partie se prépare pour faire porter la responsabilité à l'autre.
On dirait à qui la faute.
Voilà. Boris Johnson restera-t-il en place jusqu'au 31 octobre ? Bonne question. Est-ce qu'on sait ? Qu'est-ce qui est possible ?
Alors,
Marie-Claire Considère-Charles, allez-y.
Le problème, c'est que Boris Johnson, il a un gros atout, c'est que l'opposition n'est pas unie. Et qu'il y a des divergences, il y a des dissensions. Alors, ce qui aurait été, bien sûr, la meilleure solution, c'est que tous les partis d'opposition s'unissent pour désigner un porte-parole qui puisse dire, eh bien voilà, voter la défiance et gagner ce vote et puis mettre en place un gouvernement par intérim qui prenne en charge la question. Mais ça n'a pas pu se faire parce que les travaillistes n'étaient pas d'accord avec les libéraux-démocrates. Le Parti national écossais était plutôt d'accord avec les travaillistes, mais les libéraux-démocrates n'ont pas voulu.
Il va rester parce qu'il n'y a personne.
Il n'y a personne qui peut rassembler, il n'y a personne qui puisse rassembler tout le monde.
Je le vois difficilement aller à Bruxelles et demander ce nouveau report. Ce serait la mort politique. Il a juré, comme je l'ai dit, il a juré qu'il préférait mourir dans un fossé plutôt que de demander un nouveau report.
Donc, ce serait la mort pour tout le monde, sauf pour quelqu'un qui a des rapports extrêmement variés avec la vérité.
Oui, c'est pas faux. Vous parlez là de Boris Johnson. Les Britanniques sont-ils bien informés des conséquences qu'un no deal aurait sur leur quotidien ?
Écoutez, ça dépend de ce qu'on pense du Brexit, je pense, sur le sens plus large. Ceux qui s'informent bien sont bien informés. Ceux qui, en général, ceux qui prônent le no deal, à mon sens, ne comprennent pas du tout les conséquences.
Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui.
Oui. En cas de Brexit dur, l'Irlande pourrait-elle être réunifiée ?
Ah, alors c'est une question qui est d'actualité. J'entends très souvent des hommes politiques dire, eh bien voilà, il faut, si on veut que l'Irlande du Nord reste dans l'Union européenne, c'est la seule solution. Cependant, à mon avis personnel, je pense qu'elle n'est pas encore mûre pour l'unité. Il faut, bah, d'abord, on a aussi là aussi en Irlande du Nord une polarisation des partis avec le parti unioniste démocrate à une extrémité et le parti nationaliste.
Les partis, mais la population.
Eh bien, la population, elle se répartit dans les deux camps, si je puis dire, nationalistes et unionistes. Les unionistes ont encore un petit avantage. Donc, ce n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant.
Pour finir, n'est-ce pas l'Union européenne qui, le 31 octobre, fixera les conditions du Brexit et non le Parlement britannique ? En gros, est-ce qu'à un moment donné, l'Europe va dire « c'est comme ça que ça va se passer » ?
Je crois qu'effectivement, c'est elle qui aura le dernier mot, précisément parce qu'il y a un Conseil européen le 17 octobre et c'est là que les décisions se prendront.
Eh bien, on se donne rendez-vous le 17 octobre.
Volontiers.
Allez, merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h20. Demain, vous retrouvez Axel de Tarlé pour un nouveau C'est dans l'air. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée sur France 5.